société, parce que voilà, moi je trouve que c'est on fait de la danse hip-hop. Ouais, même on fait
et
du hip-hop.
Du coup, je suis en train de mettre en place, c'est pas une révélation ce que je vais vous dire, mais c'est un nouveau projet qui est un projet de solo à deux, qui va faire état de la question de la transmission.
Principal de notre compagnie, c'est des spectacles engagés et au moins d'éveiller les consciences. Voilà.
Merci Fred. Et puis alors, il y a un vrai parti pris en tout cas.
Ouais.
Un vrai positionnement.
Il y a quelques années encore.
Ça, c'est ma réflexion, puisqu'on est dans une conversation aussi avec le hip-hop, de la scène notamment chorégraphique française. Et il y a quelques années.
Oui, très bien. Tout à fait. Et pour citer un autre Frédéric, il me semble que nous sommes contemporains.
Nous sommes contemporains. Nous sommes une culture contemporaine. Ouais. Une culture contemporaine qui peut être aussi imprégnée par des...
Et de me mettre en difficulté, comme je l'ai toujours fait dans mon travail de création. Quoi.
Exactement. En fait, documenter autrement. Parce que déjà, en tant que chorégraphe, ton travail, ta création documente déjà. Elle documente sur le monde, sur les questions qu'on se pose, sur le monde, notre rapport au monde, à la société. Une autre façon de documenter aussi. Non.
Oui, et puis, moi j'aime bien l'expression qui dit il y a l'histoire qui appartient aux dominants, et il y a les mémoires qui témoignent de certaines réalités qui ne sont pas véhiculées dans les médias principaux.
Ah, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bendongué et je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de RVR sur ce podcast. À la bonne heure, conversation avec le hip-hop. Nos deux derniers épisodes, étaient consacrés autour de mon récit chorégraphique au sujet du passage de la rue à la scène de la danse hip-hop en France et particulièrement lyonnaise dans les années 80, avec en toile de fond son enjeu politique et culturel. Si vous avez raté ces deux épisodes, ils sont disponibles à l'écoute dans notre rubrique « Nos émissions » et en cliquant sur la ligne « Musicale ». À la bonne heure est donc dédié à toutes celles et ceux ayant un lien de près ou de loin avec la culture hip-hop. Et aujourd'hui, mon invité n'est ni une danseuse, ni une chorégraphe hip-hop, mais cependant une figure du monde de la culture en région lyonnaise. Et qui aime faire du lien, non pas seulement entre les pratiques artistiques, mais avec le public. Nous sommes d'accord, c'est ça aussi faire culture. Créer du lien, des passerelles, et notamment entre amateurs, amatrices et professionnels. Une façon aussi pour l'artiste de rappeler que nous sommes toutes et tous des êtres en culture. Pour les formes les plus essentielles et communes, c'est-à-dire une langue, des rituels, des traditions, une relation au monde et aux humains, des récits, des formes dessinées, gravées ou peintes, des musiques, des danses. Qu'en partageant ces liens et expériences, cela nous constitue individuellement et collectivement. Mais aussi, permettre à chacun et chacune d'entre nous la capacité de nous inscrire en société et à y prendre une place. C'est là, aussi, qu'intervient la transmission d'un art, qu'il soit de la rue comme de la scène, le théâtre. Et c'est également là que se situe l'artiste que j'ai le plaisir de recevoir. La metteur en scène taharienne, j'ai nommé Françoise Cazil. All the wheels are still, he is. All the wheels are still, he is. DJ. Salut Françoise et bienvenue à la bonne heure.
Bonjour Fred.
Alors, qui est Françoise Cazil? Tu vas nous le dire. Mais j'aimerais rappeler aux éditrices et auditeurs que c'est d'abord une rencontre ici à Tarare. Et avant tout, un parcours artistique affirmé en tant que metteur en scène, comédienne et professeur de théâtre. Une artiste reconnue par la profession, mais qui a gardé toute son humilité, humanité, de femme, d'artiste citoyenne, pour qui la démocratisation de la culture, la démocratie culturelle, ne sont pas, entre guillemets, des mots valises à subvention, c'est-à-dire un projet à spéculer comme un autre, mais le réel souci de trouver sans cesse des nouveaux rapports entre l'art et la culture, l'art et le social, le politique, dans le sens politis du terme. Ouais, je pense qu'elle fait partie aussi de cette génération, bercée sans doute par une certaine utopie, celle où la culture porte de véritables enjeux. Serait un levier pour lutter contre les inégalités sociales, renforcerait la cohésion sociale, la démocratie, éviterait les conflits. favoriserait l'ouverture et non le repli et la rupture. Françoise Cazil, c'est le continuum d'une époque non pas révolue, mais qui a façonné le présent, mais qui a bien besoin de renouer avec le sens du service public, de son offre culturelle et artistique sur notre territoire. Françoise, c'est en 1996 qu'aura lieu une rencontre importante et déterminante avec toi, pour toi, avec la compagnie Courant d'air et Éric Perret, son directeur artistique. Là, tu découvres le métier de metteur en scène et suis une formation qui te mènera à cette profession. En 1997, tu crées ta compagnie Pavé de Lune, un nom très poétique, mais parce que tu adores la poésie. Villefranche-sur-Saône sera aussi la ville de tes rencontres et formations, notamment avec Jean Collomb, auteur, metteur en scène et ex-directeur du théâtre de Villefranche-sur-Saône. Puis avec aussi Johannes Matisse Toll, directeur artistique du Centre des Arts Pluriels d'Etelbrook. Ton parcours est semé de rencontres. Yves Pignard, directeur du théâtre des Marronniers de Lyon, est l'une de tes collaborations qui va s'inscrire dans le temps. C'est aussi des collaborations avec des compagnies et des théâtres à l'étranger, des projets de résidence et d'échanges artistiques avec le réseau des centres culturels français, notamment tels qu'à San Francisco aux États-Unis. Habité par une passion, mais aussi le goût de la transmission, les deux combinés que tu mets au profit de différents enjeux, tels que celui des parcours préparatoires aux grandes écoles de théâtre, c'est-à-dire INSAT, Conservatoire, Cours Florent, La Seyne-sur-Saône. La liste est longue. Et enfin, en lien à l'éducation artistique, où en 2023, tu as travaillé sur un projet sur l'exil et création d'un spectacle avec les élèves de l'école de Tizi-Libourg, en collaboration avec le Théâtre des Marronniers et l'Académie du Rhône de la DAC et la DAC, c'est-à-dire délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle. Là encore, tu lis et relis les lieux. Villefranche-sur-Saône, Lyon, San Francisco, Tizi-Libourg et puis Tara, où tu répètes actuellement dans les locaux de la compagnie avec le contrebassiste Laurent Petit-Guyot sur la création d'une lecture sonore et musicale qu'on reviendra, dont tu pourras nous en parler un peu plus tard. Mais avant que nous parlons de ton actualité artistique, on va poursuivre ta présentation, mais là, cette fois-ci, je te laisse le micro.
Alors, je suis plus à l'aise sur scène et en mise en scène que dans un micro, mais bon. Donc, j'ai démarré avec la compagnie Altaïr en tant que comédienne, après une formation de comédienne. Et c'est là que j'ai vu l'importance, à travers, entre autres, la méthode dont on se servait, la méthode Stanislavski, avec l'importance du corps sur le texte, en plus du travail émotionnel. Donc là, j'ai vraiment pris toute la dimension du théâtre dans sa totalité. C'est-à-dire que le théâtre, ça n'est pas que du texte, on travaille le texte, donc la respiration, la voix, etc. On travaille le corps pour l'expression du corps et des émotions, on travaille les émotions, et là, j'ai eu envie d'aller plus loin que ça et de mettre en scène tout ça. Donc j'ai fait une formation effectivement de mise en scène avec Éric Perret. Et ça m'a entraînée dans un grand nombre de projets amateurs et professionnels, et petit à petit de créer ma propre école.
Ta propre école. Et tu as créé ta propre compagnie.
Oui.
Qui
s'appelait la Compagnie de Lune.
Qui s'appelait la Compagnie de Lune.
Pavé de Lune, Pavé de Lune, c'est une compagnie avec laquelle j'ai travaillé également, mais ma compagnie s'appelait la Compagnie de Lune.
La Compagnie de Lune, oui.
L'UNE, ça c'était mon côté un peu féministe.
Ah oui.
et donc voilà. Et dans cette compagnie, j'avais des cours des tout petits, on va dire presque de 7 à 77 ans ou de 7 à 97 ans. Et on a créé énormément de spectacles amateurs et professionnels, parce que du coup, j'entraînais mes élèves, j'essayais de les tirer par le haut et de les entraîner dans des créations professionnelles. Et puis, bien sûr, ce que j'ai adoré faire pendant des années, c'est la transmission.
Ben oui, parce qu'en fait, tu as beaucoup mené aussi des projets de création qui embarquent les amateurs et amatrices. Donc c'est des actions culturelles aussi que tu as menées avec des établissements scolaires, les missions locales, municipalités, différentes municipalités, centres culturels, galeries d'art aussi.
Oui, oui, j'ai vraiment essayé de transmettre partout où on en avait besoin et où, ouais, on me demandait. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec des collèges, avec des lycées, avec des missions locales, dans des galeries d'art, tu as raison. Et j'ai entraîné vraiment tout. On avait une équipe incroyable. La compagnie, c'était une vraie famille. J'ai eu, je crois, jusqu'à 70 élèves, quelque chose comme ça.
Ah, quand même.
Et du coup, c'était vraiment... Et certains, donc, sont partis dans les grandes écoles, effectivement, l'ENSAT, les cours Florent à Paris, la Seyne-sur-Saône à Lyon, enfin, différents lieux. Conservatoire aussi, Conservatoire de Lyon. Et je peux dire que plusieurs de mes élèves sont devenus aussi ce que j'appelle les semi-professionnels, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas vivre de leur art, donc qui ont un métier à côté, mais qui ont une capacité et des qualités aussi bonnes que des professionnels.
De 2000 à 2006, tu animes des ateliers au théâtre pêle-mêle à Villefranche, toujours à Villefranche-sur-Saône, avec ton équipe de professionnels, comédiens, régisseurs, danseurs, musiciens, hein, scénographes, maîtres d'armes. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Oui, bah, c'est-à-dire que, voilà, moi, c'est ce que j'appelle les arts frères. C'est-à-dire que j'adore le partage. Le théâtre peut être un théâtre uniquement de mots, comme tu disais joliment, les mots qui dansent, mais j'aime travailler en équipe avec des musiciens, avec tout ce que tu viens de dire. J'avais une scénographe exceptionnelle, avec beaucoup de talent, Christine Leblanc. J'avais un régisseur, j'avais... effectivement, le maître d'armes, j'avais... Sur une année dans mon école, j'avais créé des... Du moins, j'avais embauché plusieurs talents de différents, donc entre autres un maître d'armes, parce que dans certaines pièces, on a besoin de tomber ou de se battre, mais aussi de tomber. Donc, il donnait des cours pour apprendre à chuter sans se faire mal, etc. J'ai travaillé avec des musiciens qui venaient apprendre le son, l'ouverture à la musique pour les élèves. Bien sûr, des chorégraphes. Enfin, voilà. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'aime bien, dans la mesure où c'est quelqu'un qui correspond à mes valeurs et à ma forme d'enseignement, j'aime bien partager. Je trouve que c'est important.
Ta relation, en tout cas, avec Villefranche-sur-Saône est très importante quand même. Hein. C'est vraiment un peu ton BC. C'est la ville à laquelle, en tout cas, où la compagnie, c'est l'assise de la compagnie aussi. C'était l'assise de la compagnie.
Oui, j'ai vécu une bonne trentaine d'années à Villefranche avant d'arriver à Tarare. Et du coup, oui, le théâtre pêle-mêle, c'est un petit théâtre qui est super, une cinquantaine de places à peu près. Je crois que j'ai démarré tout de suite la première année, je crois, après sa création. Et j'ai donné des cours là-bas pendant plusieurs années, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Et puis derrière, donc, la direction a changé, donc c'est là où j'ai monté mon école. Mais je continuais à la fin de l'année de louer ce petit théâtre toute une semaine, et on faisait les répètes générales tous les jours, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, et à partir du vendredi jusqu'au dimanche, on enchaînait les pièces avec les élèves, et c'était plein tout le temps, et c'était vraiment une super aventure. Mais le théâtre pêle-mêle continue là à tourner, et c'est bien parce que c'est un petit théâtre de poche qui permet à des artistes, des artistes qui ne sont pas forcément des artistes connus et célèbres, de proposer leur projet et leur spectacle. Et puis, comme c'est un petit théâtre, ce sont des prix plus avantageux pour que tout le monde puisse y aller. Je trouve ça vachement sympa, quoi.
Pendant 3 ans, Françoise, tu écris et mets en scène Le Monde en Place.
Ah oui.
Le Monde en Place pour le CCAB, qui signifie Centre Culturel Associatif Beaujolais, pour ceux qui s'en souviennent, réunissant quand même 400 artistes professionnels auprès de Yves Pignard, donc directeur du Théâtre des Marronniers de Lyon. Donc ces artistes, ils sont comédiens, danseuses, musiciens, enfin 400 artistes.
Oui, alors ça, c'était un projet formidable. Alors vraiment, je tire mon chapeau et je remercie Yves Pignard, qui est quelqu'un de super au niveau professionnel, au niveau humain, et qui m'a toujours suivi et poussé et aidé. Donc ce projet, Le Monde en Place, c'était un projet que Yves menait sur plusieurs communes. Et nous allions avec mon équipe et avec mes élèves, vraiment, et ma compagnie, sur toutes ces places. On emmenait les gens sur les places. Et où Yves a réussi le coup de force absolument incroyable, c'est que tous les spectacles étaient gratuits. C'est-à-dire, c'était des bouts de spectacle de ce qui allait être présenté au festival en Beaujolais derrière. D'accord. Était organisé par le CCAB. Et nous, avec les élèves, donc chaque année, on choisissait un thème. Ma scénographe faisait tous les costumes. Une fois, on avait même des vélos avec des ailes. Enfin, on prévoyait tout ça et on passait de place en place pour annoncer ces spectacles. Voilà, et ça se terminait par le festival en Beaujolais derrière. C'était une aventure absolument incroyable et formidable. Et on a drainé un nombre de gens incroyables. Et puis, ce qui avait de génial, c'est que Yves emmenait la population, même dans des quartiers extrêmement difficiles ou compliqués de Villefranche. Et on a fait danser les gens dans les quartiers difficiles. C'était vraiment une aventure formidable.
Et toute une époque. Parce que... Le CCAB a été créé en 1981, il me semble, hein, c'est ça. Et sa dernière édition date d'il n'y a pas très longtemps, c'est de 2019. Je crois que c'est au moment de la crise, donc Covid, si je ne me trompe pas. C'est la fin d'un festival, comme tu dis, en Beaujolais, sans oublier les multitudes d'actions culturelles qu'il a menées hein, pour toutes les générations, en fait, hein, très intergénérationnelles. Ce qui a permis à beaucoup d'élèves de découvrir et de pratiquer le théâtre, la musique ou d'autres activités artistiques. Et ça, dans le cadre de partenariats aussi avec les écoles, les collèges, les lycées, les établissements de formation technique, de santé. On peut dire, Françoise, que certaines communes, voire communautés de communes, récoltent aujourd'hui un peu le fruit du CCAB.
Bah oui, sûrement, bien sûr, parce que c'était une aventure formidable. Et puis, il n'y avait pas que ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, moi, j'ai parlé de mon école, mais effectivement, les communautés, la communauté de communes, toutes ces communes ouvraient, bien sûr, le projet à tout ce que tu viens de citer, hein, les élèves, les collèges, les lycées, etc. Et ça a drainé une population absolument incroyable, un grand nombre de professionnels, effectivement. Moi, tu parlais de 400 artistes professionnels. La dernière année, je crois qu'il y en avait 450 et il fallait gérer tout ça. C'était une aventure multidisciplinaire et extrêmement enrichissante. Donc forcément, ça a laissé des traces. Et c'est dommage que ça se soit arrêté. Mais bon, Yves avait décidé donc de donner le flambeau et puis derrière il y a eu le Covid, etc.
Qui a aussi impacté aussi
sûrement et du coup voilà le CCAB malheureusement s'est arrêté, mais c'était vraiment une très belle aventure.
Même si peut-être il devait s'arrêter tôt ou tard, mais en tout cas ça l'a un petit peu précipité, en tout cas cet arrêt. Tu aimes concevoir la création, on l'a bien compris, aussi pour le jeune public, hein, n'est-ce pas? Et en 2016, tu as écrit et mis en scène la saga Mangini, je prononce bien, un grand spectacle sur l'histoire de la famille Mangini.
Oui, alors ça, c'est encore autre chose. J'ai travaillé avec une association qui s'appelle Merci, alors, et qui met... à jour, qui remet à jour des gens qui ont fait des choses assez exceptionnelles et dont soit personne n'a entendu parler, soit on a complètement oublié leur présence. Et entre autres, j'ai fait avec eux la saga Mangini, c'est-à-dire Mangini, c'est un entrepreneur, mais qui est arrivé d'Italie avec des sabots et un baluchon, mm-hmm. et qui a fait une fortune énorme dans la région, mais qui ne s'est pas...
Saint-Pierre-la-Palue, je crois, notamment.
Oui, entre autres. Et qui ne s'est pas contenté de gagner de l'argent, hein, qui a fait plein de choses pour la santé, pour les trains, qui a inventé plein de choses. Enfin, il y a un livre qui est sorti sur la saga Mangini, et c'est impressionnant tout ce qu'ils ont fait. Ils étaient liés à la famille Montgolfier, la famille Eiffel, ouais. la famille dans la santé. Ils ont fait beaucoup de choses pour des jeunes filles en difficulté. Je crois que c'est les créateurs des premiers HLM. Enfin, beaucoup de choses. Et ils ont fait vraiment beaucoup de choses de bien. Et ce qu'il y a eu de formidable, c'est que donc j'ai écrit la pièce de la saga Mangini. Nous l'avons joué, entre autres à Saint-Pierre-la-Palue, et la famille Mangini s'est déplacée de la France entière pour venir voir le spectacle. Et ça, c'était un truc génial. Ouais. Et il y avait la doyenne des Mangini, une dame très âgée, qui est venue voir le spectacle et qui, à la fin, s'est levée et a applaudi debout. Et ils étaient très émus et c'est formidable. Et je trouve que c'est important aussi parce que la notoriété, c'est bien, mais il y a des tas de gens absolument formidables qui ne sont jamais connus, qui ne seront jamais connus.
Qui sont à l'ombre.
Qui sont dans l'ombre, mais qui ont fait des choses formidables. Et je trouve que c'est bien de travailler
aussi,
là-dessus.
De mettre en lumière de mettre en lumière leur ouvrage aussi, quand même, parce que c'est l'ouvrage.
Hein, bah oui,
quand
même. C'est l'ouvrage. Bien sûr.
En parlant d'ouvrage, Peter Brook, une icône.
Ah oui, ça c'est mon maître absolu. Donc j'avais même eu la chance de monter dans son théâtre à Paris et de le voir une fois comme ça. Et pour moi, après Stanislavski, je suis passée à Peter Brook parce que c'est l'espace vide. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'espace vide. Et en fait, à partir de là, autant Stanislavski, bon, il y a le travail du corps que j'ai toujours gardé, parce que ça c'est vraiment une de mes priorités dans le travail, mais l'espace vide, c'est formidable. C'est-à-dire que tu pars de la personne et ensuite tu vas rajouter des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de costume, il n'y a rien.
C'est ça.
On part vraiment de l'être, de lui-même, de ce qu'il a à te donner. Et derrière, on va rajouter les costumes,
Les artifices après. Mais
les artifices après.
On est à nu, quoi.
L'essentiel.
On est dans l'essentiel.
Et du coup, c'est plus difficile. mes comédiens, pour eux, c'était plus difficile comme travail parce que c'est plus ingrat. Mais une fois que c'est réalisé, c'est top.
Ben oui, parce qu'en danse, j'ai un peu aussi la même approche, mais pas que moi, hein, d'autres aussi, c'est-à-dire sans tous ces artifices pour aller à l'essentiel, au fond des choses, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ensuite, après, les artifices viennent se rajouter. Mais c'est du plus.
Bien sûr.
C'est du plus. Mais le superbe, c'est on le découvre, il se révèle dans ces conditions-là, en fait. Il se révèle dans ces conditions-là aussi.
C'est ça.
Le superbe de ton expression, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse.
C'est la saveur, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est comme un gâteau. Il faut, avant qu'il soit beau, il faut qu'il soit bon. Et puis après, on y rajoute des choses, on rajoute la cerise sur le gâteau.
C'est ça, c'est
la saveur. Mais c'est la saveur, c'est le goût.
Le goût, et, le processus.
Et plus tu vas aller chercher ça, que ce soit en danse, en expression corporelle, en théâtre, en chant, en musique.
L'art de la scène.
Mais même dans l'être humain.
Eh oui.
C'est ce qui est important, c'est d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, puis après tout le reste, ça vient, on rajoute et on embellit et c'est chouette.
Tout à fait.
Mais l'essentiel, c'est ça, et effectivement, moi j'ai trouvé ça dans la formation Peter Brook.
Peter Brook, c'est pas lui qui disait, il n'y avait pas une citation de Peter Brook, qui disait « Le diable, c'est l'ennui ».
Oui.
La fameuse longueur, non ?
Oui,
c'est ça.
Il a même écrit un livre.
Oui.
Qui est magnifique, qui s'appelle « Le diable, c'est l'ennui », effectivement, et c'est tout ce qui est too much, quoi. Le trop est l'ennemi, étant l'ennemi du bien.
Oui.
Aller à l'essentiel, c'est vraiment ce qui me motive.
Alors, tes collaborations artistiques sont diverses, et notamment avec la musique où tu es mis en spectacle musicaux. C'est le cas avec le quintet de jazz Mélusine, qu'on entend d'ailleurs, et la création Chronique. Tu peux nous en parler un petit peu, Françoise ?
Oui, alors j'ai découvert le travail de mise en scène avec les musiciens. Ce n'était pas mon métier au départ. Avec différents groupes. Et là, effectivement, tu viens de citer deux groupes de jazz. Donc, c'est plus compliqué parce que déjà, au niveau scénique, on a des micros, des fils, c'est plus compliqué. Et il faut quand même mettre en avant l'esthétique et le propos musical, ouais. sans l'étouffer. Enfin, c'est une démarche un peu particulière, mais j'ai vraiment aimé ça. Tous les groupes avec qui j'ai bossé, ça s'est toujours bien passé. J'avais commencé la première expérience musicale, ça a été avec un groupe qui s'appelle Pétrec.
Pétrec.
C'est donc de la musique et des chansons pour enfants. Et ça a été un hasard qui fait bien les choses, c'est-à-dire que leur metteur en scène les avait lâchés et je me suis retrouvée un jour pourtant dans un festival de théâtre où j'ai rencontré le producteur qui cherchait un metteur en scène. Donc je lui ai dit, je fais du théâtre, mais bon, pourquoi pas. Et je suis partie dans cette aventure. Ils m'ont fait confiance. Ouais. Et derrière, j'ai enchaîné avec Mélusine, avec Chronique, avec différents groupes. Mais c'est un bon exercice aussi. Et je pense que c'est bien l'apport théâtral avec la musique. Parce que théâtral et scénographique. Parce que... ça rajoute un petit quelque chose, mmh. Et puis les musiciens donc se colorent avec ça. Enfin, oui. Voilà. Ouais.
Toujours en rapport avec la musique, mais aussi la danse, le hip-hop, Françoise. Ton rapport avec le hip-hop est récent. Il y a notre collaboration et celle de la compagnie, des projets que l'on tente d'initier autour de la danse, du théâtre et de la musique ici à Tara. Mais avant, il se situe à Lyon en 2022 avec des jeunes danseuses et danseurs hip-hop, mais là amateurs, amatrices, où tu as écrit et mis en scène un spectacle à l'occasion des 150 ans de l'UIM. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UIM et comment est née cette collaboration, Françoise ?
Alors, l'IUMM, c'est un syndicat de la métallurgie, qui est assez important en France d'ailleurs et entre autres à Lyon. Encore une fois, un hasard qui fait bien les choses, c'est-à-dire que ils ont créé une école de formation à Lyon et ils souhaitaient mettre en avant la jeunesse, entre
D'accord.
autres. Et ils avaient contacté une styliste lyonnaise, ouais. Nathalie Chaise, pour créer les costumes. Mais bon, elle n'avait pas trop le temps. Et comme ils cherchaient, entre autres, à faire un spectacle, elle a parlé de moi, puisqu'elle connaissait un peu mon travail, que j'avais travaillé déjà avec elle sur un projet avec la région Rhône-Alpes, avec des personnes handicapées. Et voilà, et je suis arrivée dans ce projet. Et pour mettre en valeur la jeunesse, mmh. comme je devais également, j'ai travaillé avec un slameur.
Un slameur.
Voilà, donc de son côté, il faisait écrire les slams. que les jeunes futurs métallurgistes allaient dire sur scène, donc c'était pas du tout leur métier. Et moi, de mon côté, il fallait que j'amène une dimension théâtrale ou chorégraphique. Donc comme j'aime beaucoup la danse et que je connais bien une chorégraphe de Villefranche qui s'appelle Sada Zoubiri, avec qui j'avais bossé un petit peu sur des différents petits projets avant.
Ah oui, donc tu as déjà auparavant, tu avais déjà collaboré avec des artistes hip-hop.
Oui, et essentiellement sur les textes. J'écrivais des textes que je disais pendant qu'ils dansaient. Enfin, on avait fait ça surtout pour le soutien aux femmes battues une année. Et puis, et voilà. Et donc j'ai fait appel à cette chorégraphe qui a une compagnie et des élèves. Et donc elle en a sélectionné quelques-uns qui sont vraiment de qualité. Et on a monté une chorégraphie sur un texte que j'avais écrit sur la métallurgie.
Sur la métallurgie,
voilà.
Oui.
Et c'était très chouette. Et apparemment, les gens ont beaucoup aimé. Donc ça, c'était bien. Et puis, j'aime beaucoup le hip-hop parce que pour moi, c'est vraiment un langage du mouvement. Et quand je dis langage, c'est le langage, la parole, et puis langage comme engagement. Et ça me plaît beaucoup, et voilà. Et j'espère retravailler. Alors, donc, entre autres, si nous, on arrive à faire des projets théâtre, hip-hop, ça c'est bien. Et j'aimerais bien retravailler entre autres avec cette chorégraphe-là, avec qui d'ailleurs que je commence à solliciter pour un futur projet de court-métrage.
De court-métrage. Très bien, c'est bien. Donc c'est cet aspect-là, en tout cas, que tu aimes, ce rapport-là de l'engagement que tu aimes dans le hip-hop.
Oui.
Que tu aimes dans le hip-hop et que tu aimes et qui te nourrit en fait, qui te nourrit également. En tout cas, effectivement, c'est réciproque quoi qu'il en soit, j'imagine, dans ces collaborations.
Absolument, oui, absolument. Bah oui, bien sûr, ça me nourrit. Ça, tout ce qui est culturel me nourrit de toute façon. Et c'est vrai que il y a cet engagement et puis il y a la beauté aussi de moi je trouve ça même si en apparence comme ça c'est un peu rude, je vais dire. Il y a une élégance. Il y a vraiment une élégance de ce langage-là. Moi, j'aime beaucoup les danses qui viennent de la rue aussi parce que je trouve que c'est permettre, à travers ça, c'est permettre de donner la parole à tout le monde. Et je pense que les gens qui font du hip-hop sont souvent des gens très passionnés. Donc ça me plaît bien aussi.
Ça te plaît aussi. François, je te propose de faire une pause musicale avec l'artiste de ton choix. Il s'agit de Fahd Afridi et de son titre « Lost », autrement dit « Perdu ».
Give it room to grow, to take back your fear and your worry. know you find. Tell me where would it hide? Cause here, in the great hall of mirrors, you get what you give, you project what you leave. Reflect what you give. Great waves of sunshine are coming on your way. Open up the floodgate and let your love light shine. Every little moment you spend on a worry, you spend on a fear, you just give it room to grow. So take back your fear, do you worry? You spend on a worry, you spend on a fear, you just to give it room to grow. So take back your fear, you worry, just clear your path away. No, 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 no. Ooh. No, 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 no. Ooh.
Trouble. There's no divine. Tell me where would it hide? Great waves of sunshine are coming up your way. Open up the floodgate and let your love light shine. Every little moment you spend on a worry, you spend on a fear, you just give it room to grow. So take back.
Vous êtes toujours sur RVR et vous écoutez le podcast À la bonne heure, conversation avec le hip-hop, avec le metteur en scène, comédienne et enseignante Françoise Cazil. Françoise, ton projet en collaboration avec l'école de Tizi-les-Bourgs et avec le théâtre des Marronniers s'inscrit-il toujours en partenariat avec la communauté de communes ou seulement la commune de Tizi-les-Bourgs ?
Essentiellement la commune de Tizi. Et là, sur le prochain projet, là, celui de cette année, c'est avec Tizi et Amplepuis.
Tizi et Amplepuis, oui. Avec Tizi et Amplepuis. Tu peux nous en parler un peu plus, François, s'il te plaît ?
Oui, alors ça fait maintenant 4 années que je travaille sur le projet de l'exil avec le Théâtre des Marronniers et l'Académie du Rhône. Et depuis, donc cette année, l'année dernière, j'ai bossé donc avec Tizi-les-Bourgs sur ce projet de l'exil.
D'accord.
Avec cette formidable directrice Matlikane et les élèves du collège. Et ça a été un projet extrêmement valorisant pour les jeunes. Nous avons tiré tous ces jeunes comme ça par le haut, et je crois qu'eux, ils ont tiré tout le projet par le haut pour mettre en avant justement ce problème de l'exil et de toutes les racines, parce qu'à Tizi-les-Bourgs, c'était incroyable le nombre de cultures différentes. Enfin, c'était pas forcément les élèves, ça pouvait être leurs parents, leurs grands-parents ou qui étaient arrivés il y a longtemps, mais je crois qu'il y avait une vingtaine de pays d'origine différentes, c'était vachement c'était très intéressant, et les jeunes ont vraiment participé dans tous les sens du terme, dans l'écriture, dans le jeu, dans l'investissement. Enfin, moi, j'ai été bluffée par cette classe qui à la base était un petit peu délicate, on va dire. Et tous ces gamins, quoi, ils ont joué le jeu, c'est le cas de le dire, magnifiquement. C'était très très chouette. Et donc du coup cette année, Madame Kahn m'a redemandé de venir, mais cette année ça n'est pas sur ce projet-là. Mm-hmm. Ce projet-là, je vais le faire avec un lycée de Rouen.
De Rouen.
Mais avec Tizi, nous allons participer à un petit festival de théâtre qui est organisé par collège-lycée de d'Amplepuis, mm-hmm. Un petit festival qui s'appelle Trois coups à deux pas, et donc là c'est sur un autre thème, c'est mythologie et légende, et donc je vais démarrer les cours là juste après les vacances, là je vais démarrer les cours avec Tizi. On va monter un petit spectacle qui sera présenté à Amplepuis.
Tu as des dates?
Tizi, c'est...
Non, mais on pourra le repréciser, oui, en communiquer un peu plus tard, oui. Même à Hervère, d'ailleurs. Mais,
oui. C'est début juin, tout début juin.
C'est début juin,
juin. Voilà.
D'accord, début voilà. Juin. J'ai une question un peu... En fait, j'ai deux questions dans l'une, quasiment. Donc effectivement, j'ai bien conduit, tu vas reconduire cette collaboration-là.
Oui.
Alors... est-ce que quand même les réformes sur le dispositif Pass Culture, hein, qui d'ailleurs a drastiquement réduit le budget de ce dispositif-là, qui a retoqué d'ailleurs même certains projets, et par conséquent renforcé aussi la précarité de certains et certaines artistes, mais aussi la fragilité de certaines compagnies artistiques, est-ce que toi, il y a eu une influence en tout cas, est-ce que ça, il y a eu un impact sur ce projet-là?
Bah oui, là, ça a failli.
Ça a failli, donc voilà, c'est
sur le
de
projet
dire.
Avec l'Académie, non, parce qu'on a répondu tout de ouais. suite, donc il n'y a pas eu de problème. Avec Tizi, il y a eu un petit décalage,
voilà.
Et du coup, j'ai failli perdre mon projet. Mais comme je le disais, Madame Kahn m'a récupéré un certain nombre de séances, et du coup, on va quand même pouvoir, alors avec moins de séances, avec moins de budget, mais on va quand même pouvoir mettre...
Elle a sauvé un peu le projet.
Elle a sauvé le projet, et c'est important. Elle voulait le faire essentiellement pour les jeunes, parce que ça leur apporte quand même énormément. Ça. Mm-hmm. Moi, je dis toujours, le théâtre, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale, parce que ça apporte énormément. Mais vraiment, moi, j'ai vu des petits miracles, hein, tout le long de ma carrière. Moi, j'ai vu des miracles par ce biais-là, qui est le théâtre, ou ça peut être la danse, ou la oui. musique, peu importe, par l'art, par la culture. Mm-hmm. Moi, j'ai vu des miracles sur les jeunes. Tant au niveau psychologique, au niveau social, moi j'ai vu des trucs incroyables, et c'est vrai que cette histoire du Pass Culture, je pense que ça a bloqué beaucoup de monde, donc nous là c'est chouette, on a réduit un peu nos heures, mais on va s'en sortir, et c'est important pour la transmission pour ces jeunes, et puis je trouve chouette d'avoir sauvé aussi ce projet, parce
carrément.
Que, eh ben pour moi déjà, parce que c'était important de faire ça.
C'est une très bonne démonstration de sa part aussi, de sauver aussi non seulement ce projet, mais qui signifie aussi l'intervention de la culture, de l'art dans les établissements, et de l'influence que ça peut avoir sur au niveau comportemental, comme tu viens de le citer, de l'évoquer tout à l'heure. Ça, c'est important. Et puis, c'est vrai que cette réforme, par rapport à ce Pass Culture, risque effectivement, où beaucoup de projets ont été retoqués, effectivement, met encore un peu plus dans la précarité certains artistes du spectacle vivant, ça, c'est sûr. Tout récemment, tu sais, le monde de la science et de la recherche s'est mobilisé en France en écho à celle des États-Unis. Elle-même en réaction aux réformes de décisions arbitraires, dont celle de leur président Donald Trump. Et l'un des mots que les manifestants ont écrit et brandi sur leur pancarte ou banderole était « Debout la science ». Toujours en France, et pas plus tard qu'en fin janvier 2025, c'est le hashtag « Debout pour la culture » qui a circulé à travers une pétition. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. En effet, des milliers de personnes se sont mobilisées en soutien au service public de la culture qui fait face justement à de violentes coupes budgétaires. Le Pass Culture en fait d'ailleurs partie. Certains théâtres, cinémas et autres lieux culturels se sont joints à cette mobilisation. Rester debout, tenir debout, chamberer, comme on dit en créole. C'est un devoir aujourd'hui, Françoise. un devoir pour soutenir celles et ceux qui seront réduits encore plus justement dans le silence, dans la précarité, artistes, compagnies, équipes artistiques de certains lieux, d'ailleurs les plus alternatifs, mais aussi défenseurs de la liberté d'expression et de création. Faut-il faire entendre sa voix dans son lieu aujourd'hui en tant qu'artiste, Françoise ?
Ah bah oui, bien, évidemment, et à double titre, hein, c'est mon métier hein, de se faire entendre hein, sur scène, mais également dans la vie et dans la société. Une société sans culture, c'est impossible, absolument impossible. Donc il faut, il est évident qu'il faut se battre. Je n'aime pas ce mot parce que il est violent, mais en tout cas, il faut faire entendre sa voix, il faut faire entendre ses convictions. Il faut montrer à quel point c'est important. À quel point un monde sans culture est impossible. Donc, que ce soit n'importe quoi, hein, le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques, la couture, enfin tout, c'est vraiment essentiel. Et quand on voit effectivement le résultat positif des spectacles, de cette transmission, etc., sur les gens et sur les jeunes en particulier, qui sont quand même notre avenir, et ben c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut dire. Alors moi, je suis pas pour la guerre, moi je suis pour la paix, mais je suis vraiment pour justement dire avec humilité, avec générosité, avec bienveillance, mais dire que c'est essentiel, qu'il faut soutenir les artistes, qu'il faut les plébisciter, qu'il faut les aider. Mais encore une fois, on est dans un monde difficile. Donc il faut en tout cas pas baisser les bras, rester debout. Alors là, oui, rester debout.
Merci Françoise. Alors, nous allons faire à nouveau une pause avec une artiste chanteuse de ton choix, Lauryn Hill. Et on va écouter son titre intitulé « If I Ruled the World », autrement dit « Si je dirigeais le monde ». Extrait de son album « Nina Simone and Lauryn Hill » de Maisil Cushen. Vous allez entendre en introduction de ce titre une interview de Nina Simone par Thierry Ardisson qui date de 1988. Et puis, vous entendrez par la suite une autre voix, celle aussi d'une femme militante et engagée. A tout de suite.
Tu étais très préoccupé par le problème noir aux États-Unis. Tu crois qu'il est résolu maintenant ?
Non, le problème n'est pas résolu. Maintenant, c'est un problème économique. L'aspect racial est moins marqué qu'avant. Aux États-Unis, en ce moment, le problème, c'est l'argent. Tout le monde se bat pour gagner de l'argent. Et les inégalités entre les riches et les pauvres n'ont jamais été aussi fortes. Et si les Noirs américains ne s'accrochent pas comme des malades pour gagner plus d'argent, cet écart s'agrandira encore.
To make more money, then the division between the poor and the rich becomes even greater than it was.
Le fossé s'agrandit, tu veux dire.
C'est ça. Et là-bas, les gens ne pensent qu'au gagner de l'argent. Je ne peux donc pas dire que la situation se soit vraiment améliorée. Le problème racial s'est atténué, oui. Les gens sont beaucoup moins obsédés par les différences raciales. Mais le problème économique a pris beaucoup d'importance, ce qui veut dire que les inégalités sont les mêmes, même si elles semblent différentes. Sans argent, tu n'es rien, que tu sois blanc ou noir. Mais le plus souvent, les plus pauvres sont les noirs.
Ouais, tu veux dire que c'est plus une question d'argent qu'une question de couleur.
Exactement, c'est une question d'argent.
Things will get brighter. Ooh, life, child, life, things life, are gonna get easier.
Take me under.
Ooh, child, things will get brighter.
Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just supports for the mind. I take a glimpse into time. Watch the blimp read, the world is mine.
If I rule the world,
child,
imagine
things
that.
Are gonna get easier.
I myself.
Child, things will get brighter.
Black diamonds and pearls.
Child, things are gonna get easier.
If I rule the world,
child, things will get brighter.
I know it takes some effort to be clean, especially when you only follow green. But to be redeemed, when you lack your self-esteem, you got the right team. Ain't nothing wrong with making cream. But sometimes it seems like the whole scheme is dream. The American regime got us ripping at the seams. Fiends move like machines, searching chemical dreams. So refugees moving seems like we eat it, I mean.
If I rule the world,
child, things are gonna get easier.
I feel myself.
Child, things will get brighter.
Black diamonds and pearls.
Child, things are gonna get easier.
If I rule the world.
Child,
stay
things will get brighter.
And we'll walk right up to the sun. Hand in hand. We'll walk right up to the sun. We won't laugh. We'll walk right up to the sun. Hand in hand. We'll walk right up to the sun. We won't laugh.
Je représente la section Tshilumumba du Parti communiste.
Pour comprendre ça, il faut que vous compreniez ce qui, dans l'histoire de ce pays, a fait une Angela Davis. Si vous l'acceptez, je vais vous demander dans les minutes qui vont suivre de penser noir avec moi, d'être noir. Ne vous inquiétez pas, une fois cette affaire terminée, je vous laisserai redevenir ce que vous êtes. Je vous laisserai retourner à la sécurité de ce que vous êtes. Je vous demande seulement d'être noir et de penser noir pendant les quelques minutes qu'il va me falloir pour vous expliquer ce que cela signifie d'être noir dans ce pays.
Le racisme, c'est une idéologie qui a été utilisée pour justifier d'abord la surexploitation des Noirs, d'abord pendant l'esclavage et puis après. C'est une idéologie qui a aussi été utilisée par la classe capitaliste, par la classe dominante aux États-Unis pour confondre les Blancs, parce que la plupart des Blancs de la classe ouvrière n'ont pas d'intérêt objectif à être racistes, parce que ils ne profitent pas du tout du racisme. Mais lorsque les Blancs sont racistes, ils oublient il ne peut pas avoir une conscience de la nécessité pour eux-mêmes de lutter aussi. Alors, je vois le racisme comme une fonction du capitalisme, mais ça n'est pas à dire qu'il ne faut pas mener une lutte très explicite, une lutte très militante contre le racisme. En effet, je dirais que l'aspect le plus important de la lutte contre le capitalisme, c'est la lutte contre le racisme.
On vient d'entendre le commentaire de Angela Davis. Certaines et certains d'entre vous la connaissent sans doute déjà, et d'autres la découvrent. Angela Davis, philosophe, militante du mouvement des droits civiques américains, mais aussi afroféministe. Membre autrefois du Black Panther Party, où à l'époque, elle travaillait avec une branche du Black Panther Party à Los Angeles, dont elle dirigeait l'éducation politique. Il faut savoir que Angela Davis a beaucoup séjourné en France, et a notamment étudié à la Sorbonne à Paris. Toujours à l'époque, lorsque l'Amérique blanche et raciste la traque puis l'emprisonne, c'est en France qu'elle va trouver aussi du soutien, et notamment à travers des figures telles que le poète et romancier Louis Aragon, mais aussi l'écrivain et dramaturge Jean Genet, ainsi que Jean-Paul Sartre, pour ne citer qu'eux. Le propos de Nina Simone à propos du racisme et de l'argent que vous avez entendu en introduction et celui d'Angela Davis se croisent à vrai dire. C'est-à-dire le racisme comme étant une fonction du capitalisme et ayant un impact aussi sur les populations blanches, pauvres et ouvrières. Le racisme faisant partie de l'arsenal de la classe dominante. Que peuvent les artistes ? L'art face au racisme, au fascisme, à la guerre, au conflit. Pas plus tard que samedi dernier, donc samedi 8 mars, journée internationale du droit des femmes, le mouvement féministe Femen a défilé pour dénoncer la montée du fascisme en Europe et dans le monde, tout en citant Donald Trump et Vladimir Poutine. Une action contre l'épidémie fasciste, une riposte féministe. On écoute la parole Femen.
Fasciste. On est là vraiment pour interpeller les pays européens, tout le monde en fait. On annonce en fait que la menace fasciste est à nos portes. En fait, il faut agir, il faut absolument se lever, faire front et de façon ostentatoire. On s'est réapproprié leurs symboles pour les retourner contre eux, pour les ridiculiser et pour leur faire un immense bras d'honneur.
Vous avez évoqué plusieurs noms qui sont beaucoup dans l'actualité en ce moment, Vladimir Poutine, Donald Trump.
Oui, oui, on est face à une montée de l'extrémisme et des nationalismes partout dans le monde et aussi en Europe et on est là pour les dénoncer et pour faire barrage du mieux qu'on peut. On croit vraiment, vraiment à une riposte féministe. On croit que c'est essentiel.
Performer, Françoise, performer la menace fasciste. Agir, faire front de manière ostentatoire, se réapproprier leurs symboles pour les retourner contre eux et leur faire un immense bras d'honneur, c'est ce qu'elle dit. Ces symboles, pour celles et ceux n'ayant pas vu les images, c'est déjà cette marche à la cadence militaire, martiale, que l'on a entendue au début de la bande-son et du témoignage. Ce sont celles aussi de croix gammées superposées sur le drapeau américain et européen peint sur le buste nu de ces activistes militantes féministes. Et puis, elles portent aussi sur la tête un béret militaire kaki. Ces femmes, qui ne sont pas forcément des artistes, utilisent le corps comme média, comme support d'expression, mais nous rappellent surtout aussi le sens que d'être en culture. Ce que tu parlais tout à l'heure, le besoin d'être en culture, le besoin, l'importance de la culture, et donc d'être en culture, c'est-à-dire l'aptitude à lire la société, le monde de manière critique, et en comprendre les mécanismes et les enjeux, d'exercer en toute responsabilité une action engagée, individuelle ou collective. Qu'en penses-tu, Françoise ?
Moi, je trouve que c'est bien de s'engager. Après, chacun le fait avec ses valeurs, avec ses convictions, avec différentes façons. Moi, j'avais vu, alors je ne me rappelle plus, mais un groupe de femmes de tous les pays qui avaient chanté une chanson là, pour la paix. J'avais trouvé ça extraordinaire. Donc, c'était, il y avait des Palestiniennes, des Israéliennes, des Iraniennes, des Européennes. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc, après, moi, je respecte... Je respecte tous les engagements. Ma façon à moi de m'engager, c'est dans la transmission. Hein. C'est transmettre. Je trouve que notre responsabilité en tant qu'adulte, c'est de transmettre aux jeunes de vraies valeurs, l'essentiel, l'importance. De la vie, de l'humanité, de tout ça. Effectivement, je suis contre le fascisme, contre évidemment. Après, ma façon à moi, elle est plus pacifique, j'allais dire, et encore dans le mouvement, tu vois. Je trouve que justement, la danse, entre autres, c'est quelque chose qui peut transmettre tout ça, tu vois, parce que à travers les mots qu'on va choisir, à travers les mouvements qu'on va choisir, on va pouvoir donner à voir et à entendre nos valeurs, les valeurs essentielles.
Tout à fait. Puis une autre vision du monde, en fait.
Et une autre vision du monde. Alors après, effectivement, les façons de se monopoliser, elles sont toutes différentes. Et bien après, sûr. Chacun prend la sienne, tu vois. Mais il y a une danse aussi qui est proche, à mon avis. Enfin, je sais pas, c'est toi qui le diras, du hip-hop, c'est le crump.
Le crump, bien
et
sûr.
Et je trouve ça formidable. C'est une danse qui a été proposée aux États-Unis. C'était pour éviter la prison à des jeunes, c'est-à-dire que quand ils avaient besoin d'exprimer leur violence au lieu de se battre, eh bien, ils l'exprimaient avec leur corps en rythme. Et puis, mais c'est un truc de... C'est violent comme
c'est
danse.
C'est une vraie colère.
Mais c'est une vraie colère, mais sans les coups portés. Et je trouve ça formidable, quoi, par exemple. Ça,
oui,
c'est
avec complètement.
Génial.
Oui, elle transfigure vraiment une vraie colère et surtout cette violence. Et non, cette violence aussi, notamment la police.
Ah ouais.
La violence policière, tout à fait. Tout
ah bah
à
oui,
fait.
Bien sûr. Des deux côtés.
François, je te propose d'écouter un autre extrait d'Angela Davis lors de son passage en France en 2023 et qui s'exprimait justement à propos de l'engagement des artistes et de l'art. Et ça va nous permettre aussi d'enchaîner sur ton actualité artistique.
Alors l'art a toujours joué un rôle très important dans la lutte pour la liberté des hommes et des femmes. Je crois que maintenant, surtout dans il y a une dizaine, vingtaine d'années, les artistes sont devenus beaucoup plus politiques dans leur... In their way of imagining the work that
dans
their
leur
art
démarche
can do.
Et dans leur réflexion sur ce que l'art peut apporter au monde.
And so this is a period where musicians
donc,
and
c'est
painters
une époque
and,
où les musiciens, les peintres, les dramaturges, les cinéastes contribue à la transformation de la structuration émotionnelle des êtres. Voilà comment l'art peut susciter l'aspiration à la liberté.
Voilà comment l'art peut susciter l'aspiration à la liberté. Est-ce que cette définition d'Angela Davis fait écho à la tienne, Françoise, et notamment à celui, en partie, du message de ta lecture sonore et musicale, une création que tu conçois en collaboration avec le musicien Laurent Petit-Guyot ?
Ben oui, déjà le mot liberté, c'est le mot, the word. C'est vraiment, pour moi, c'est celui qui est au-dessus de tout.
Ouais.
Donc, dans cette lecture, c'est un petit conte, on va dire entre guillemets, philosophique, que j'ai écrit et qui est effectivement sur oublier ses certitudes, oublier nos a priori, oublier nos idées toutes faites et faire un pas en arrière pour oser changer de point de vue, changer les choses. C'est très important et l'art permet ça parce que entre autres la poésie, moi j'adore la poésie, j'écris pas mal de poésie et je pense que la poésie c'est aussi ça, elle peut être très violente la poésie mais elle est dite tout le temps avec des mots doux et du coup on peut exprimer beaucoup de choses et en l'occurrence dans cette lecture musicale et sonore nous allons essayer de faire tomber les préjugés. Difficile.
Difficile. Mais bon, c'est l'enjeu aussi.
C'est l'enjeu.
Ben écoute, on va écouter un extrait de votre répétition ici à Tara, au studio de la compagnie, où d'ailleurs vous allez présenter un extrait pour le prochain vendredi de la danse qui aura lieu le vendredi 28 mars. On écoute et on revient.
Et puis un jour, cette autre année passe, donc il a 14 ans, et puis il est sur les toits et il glisse. Il tombe, donc il se rattrape comme ça, et là t'as tous les gens qui voilà, il voudrait parler mais il peut pas parler, donc il crie. Alors à nouveau il y a un autre cri et tous les gens viennent sur lui, le regardent comme ça, et puis en fait ils se demandent limite ils aimeraient pas qu'il tombe, comme ça au moins il leur foutrait la paix, le gosse. Et puis au bout d'un moment t'en as un quand même qui monte et qui le sauve, tu vois, et là qui découvre en changeant de point de vue, en changeant sa façon de voir les choses, il découvre l'immensité, quoi. Il découvre son village, il découvre jusqu'à la mer, en fait, toi. Et alors, il est comme ça. Alors, les gens en bas, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, t'en as un autre qui monte, puis 3, puis 4, puis 5, puis t'as la moitié du village qui monte. Et puis, t'as un gosse qui dit, ouais, pourquoi je peux pas monter, moi quand Vian est monté la première fois, vous lui avez rien dit, t'es plus petit que moi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire devant la parole d'un enfant, hein? Parce qu'en fait, eux, ils s'en foutaient que le gosse monte à cette. Tu vois. Alors, du coup, les enfants montent et tout le monde monte. Et du coup, ils sont tous sur le village. Et là, tout le monde change de point de vue, tu vois. Et les gens lui disent.
Ouais. Non, mais en fait, après ça, refaire-le.
Ah!
Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu pleures? Est-ce que ça te rend dingue quand je fais ça?
Non.
Non. ma carrière est saccagée.
J'aime que l'on regarde le ciel et les étoiles comme un livre d'amitié et que les hommes et femmes se rejoignent dans l'âme au vent de liberté. J'aime le goût de miel qui laisse un idéal à chaque vérité et que l'on gomme les drames qui s'installent et se trament en simple réalité. J'aime ceux qui décident et puis ceux qui écrivent sur leur propre cadence pour que la vie soit vive et puis si positive qu'elle entre dans la danse. J'aime ceux qui résistent de façon anonyme à ce qui n'a pas de sens. Pour tous les artistes qui effacent les cicatrices avec leur élégance. J'aime ceux qui ouvrent les yeux sur ce drôle de jeu de comédie humaine. Ceux qui mettent le feu à leurs idées reçues, à leurs pensées anciennes. J'aime que les têtus changent de point de vue et deviennent confiants. Car c'est une vertu, sortir des sentiers battus et redevenir enfant. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
À revoir la fin.
Tout revoir.
quoi.
C'est super. Non, ah, c'est super. Non, c'est
non,
pas
tout revoir,
c'est
mais.
Pas tout revoir, mais la fin, il faut que tu sois dans la tonalité. Quoi.
Mais j'arrête pas de me gourer, moi. Mais
ben voilà, quoi. C'est vraiment le début d'une ébauche. Hein.
Ah, mais j'aime beaucoup.
Voilà, alors, bon. Si tu veux, je suis partie sur le premier couplet d'Anne Sylvestre parce que c'était sympa. Puis après, c'est un petit hommage. Puis après, j'ai écrit le texte par rapport à l'histoire de l'enfant des toits et puis à ce que je pense aussi, quoi, tu vois.
J'aime, on pourrait l'appeler. J'aime beaucoup en tout cas cet extrait parce qu'il il retranscrit bien un petit peu quand même l'état d'esprit de la ligne directrice artistique de ce projet-là, Françoise. J'aime beaucoup changer de point de vue, ce qui ouvre les yeux à ce drôle de jeu de comédie humaine, ceux qui mettent le feu à leurs idées reçues anciennes, résister à ce qui n'a pas de sens. C'est fort.
Ben oui, tout est dit.
Tout est dit, exactement. Tout est dit, et tu fais danser les mots avec Laurent, que d'ailleurs Laurent me dit, ben, je ne joue pas de la musique, mais je crée des sons, une atmosphère, en quelque sorte un espace sonore où se libère la parole, se compose, entre dans la danse.
Les mots qui dansent.
Les mots qui dansent. Ouais. Ben oui. Ça, je trouve en tout cas, je trouve que c'est un très chouette projet, Françoise.
Oui, donc le conte s'appelle L'enfant des toits. Et,
oui, c'est ça.
Et voilà, et c'est un enfant qui représente beaucoup de choses, puisque c'est un enfant abandonné, dont personne ne veut. Donc ça représente beaucoup de choses. Et puis ce petit qu'on croyait muet, qu'on croyait idiot, dont on ne voulait pas parce qu'il perturbait l'ordre établi, ce petit, il va ramener la paix, la joie, l'ouverture dans ce village. Donc c'est hyper symbolique en fait. Tout ça, c'est très symbolique. Et voilà, et Laurent, effectivement, joue un peu de musique, mais crée des sons. Alors, avec sa contrebasse, il fait le vent, avec les drums, on fait un peu la résonance, avec, voilà. Et puis, il y a aussi un petit peu de musique, de guitare, parce que ça accompagne joliment la poésie et que ça fait aussi monter les émotions, donc c'est important. Donc voilà, donc on va le présenter là pour les vendredis de la danse.
Oui.
En tout cas, c'est pas tout à fait terminé, mais non. Bon, voilà, c'est
en état.
C'est en état. Et puis ensuite, on a plusieurs lieux où on va essayer de le proposer. Donc là, on a déjà deux librairies intéressées. Mm-hmm. Et puis pour une manifestation qui s'appelle Rendez-vous au jardin, qui est une manifestation nationale. Donc il y a un des jardins là, de la Régionnière à Ternant qui va nous accueillir pour qu'on dise notre lecture. Donc voilà.
Alors une lecture dans des lieux adaptés aussi, parce que j'ai bien compris, ce sont des médiathèques également. Tu as parlé de librairie.
Oui. Librairie, médiathèque, et puis chez les particuliers, j'aime beaucoup ça. Mm-hmm. J'ai beaucoup fait du théâtre en appart à l'époque avec ma compagnie, et je trouve ça super aussi. C'est très très bien de le faire chez les gens, dans leur jardin, dans leur cour, dans leur salon. C'est ouvert, c'est vraiment ouvert, et c'est un espace un peu intime. Mm-hmm. Hein, la poésie, le conte, c'est des petites formes aussi. Hein.
Ce sont
des petites
deux,
formes.
Enfin, pas mal d'instruments.
Oui, il y a pas mal d'instruments, mais ce sont des petites formes de 40 minutes.
Oui.
C'est, tu vois,
ouais.
Mais voilà.
L'art s'invite chez soi. Quelques mots quand même sur Laurent, son parcours. Il vient du jazz, non ?
Oui, alors il a fait un conservatoire à Lyon et il travaille essentiellement sur le jazz, mais il fait aussi de la chanson française. Mmh. Il a fait aussi, à une époque, il faisait du klezmer. Il était dans un groupe de klezmer musique, c'était chouette aussi.
Klezmer musique.
La musique juive.
D'accord.
Et c'était très, 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 très beau, très chouette. Il aime bien, lui aussi, tenter différents sons, différentes ambiances, différentes rencontres, voilà.
En tout cas, c'est une belle rencontre.
Oui,
belle collaboration que j'ai privilège d'assister comme ceci, très discrètement au studio. Et puis alors, j'ai hâte que le plus grand nombre vous découvre, Françoise.
C'est gentil,
vraiment.
J'espère.
À la bonne heure se termine sur ton actualité artistique, Françoise, et celle de Laurent, bien entendu. Eh bien, écoute, j'ai été très content de partager cette émission avec toi et puis d'en faire profiter les auditrices et auditeurs qui pourront maintenant mettre une voix, un esprit, une esthétique, une posture artistique sur un nom, Françoise Cazil. Merci à Grand Master Didier, complice d'À la bonne heure. Merci pour votre écoute, chers auditeurs et auditrices. On se quitte avec un autre morceau musical sélectionné par Françoise. Il s'agit de la chanteuse Céleste et son titre « Love is back ». Autrement dit, l'amour est de retour. Ouais, il serait temps. À très bientôt les Zébrés. Peace, love, unity et amusez-vous en toute sécurité.
Love is back. Love is back. Love is back. Love is back. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is back. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is back. Love is back. Love is back. Love is back. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is back. Hallelujah, it's nice to know you. It's so peculiar how you come and change my mind. What's your preference? 'Cause I know mine, and it's you.